RCF.
C'est l'heure du 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le magazine régional ce mardi sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes en DAB+, notre guide, notre boussole est à mes côtés, Jean-Pierre Benoît est là, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Jean-Pierre, on va dans quelques instants présenter déjà le programme de ce soir et puis on donnera aussi un teasing, comme on dit, de ce qu'il va se passer demain sur les ondes, notamment de RCF Reims-Ardennes, mais aussi de RCF en région dans le magazine régional. Avant ce temps, on donne le programme de ce soir, comme ça, ça laisse le temps à nos chroniqueurs et à nos auditeurs de se faire à l'idée de ce qu'ils vont avoir au menu. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-François Boulanger qui ouvrira une nouvelle série de numéros de mémoire chrétienne consacrée au centenaire du baptême de Clovis, le 15e centenaire pour être précis. Un maire qui vous parle, Jean-Pierre, on ira dans la Marne aujourd'hui.
Absolument, nous irons du côté de Courlandon avec Patrice Morel.
On ira également faire un tour du côté du diocèse de Chalon où la paroisse de Cézanne, plus précisément, se prépare à la fête de Sainte-Léonie. Avia, le rendez-vous, c'est ce mercredi pour fêter leur sainte patronne. Nous serons également avec Pierre Cordier, député de la 2e circonscription des Ardennes, non pas pour parler de l'actualité politique du moment, mais plutôt pour qu'il puisse présenter ses vœux pour 2024 et puis aussi évoquer les intempéries qui ont touché le département des Ardennes. Et enfin, en cette période où l'on mange beaucoup de galettes des rois, puisque c'était l'épiphanie dimanche, c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, eh bien, on va parler de la meilleure galette, tout simplement, avec Frédéric Béliard, qui est du côté de Fanières, près de Châlons-en-Champagne. Il est artisan boulanger, il fait de nombreux concours, il avait été élu meilleure galette 2022. Eh bien, voilà, c'est l'occasion peut-être d'aller chez ce boulanger pour manger de bonnes galettes à la frangipane. Jean-Pierre, vous qui êtes gourmand, ça donne des idées.
Oui, oui, c'est très très bon.
Mais on a aussi des très belles boulangeries dans le coin, hein, que ce soit dans la Marne, sur Reims,
bien sûr,
dans les Ardennes, etc.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, il y a actuellement le concours du meilleur boulanger qui est diffusé en même temps sur M6 avec des boulangeries de notre région qui se disputent le titre de meilleur boulangerie de la semaine. Il y en a plusieurs qui sont de Reims, qui sont de Charleville-Mézières notamment. Voilà, c'est un petit peu un derby des boulangeries. Ça, c'est pour le programme de ce soir. On attaque dans quelques instants. Jean-François Boulanger est en ligne. On va le faire patienter un petit peu, Jean-Pierre, parce que l'actualité de la journée qui est dans la continuité de ce qu'on disait hier soir, Elisabeth Borne a été donc a présenté sa démission qui a été acceptée par le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est Gabriel Attal qui était jusqu'alors ministre de l'Éducation nationale qui a été nommé Premier ministre.
J'ai noté, Alexis, que vous avez un peu hésité quand vous avez dit Madame Elisabeth Borne a démissionné, mais vous avez vu une petite pause parce que certains disent avec beaucoup de malice, bien sûr, qu'elle a été démissionnée, ce qui n'est pas
qu'elle
tout
a été démise
fait...
de ses fonctions.
Voilà, c'est un petit peu ça parce que dans son tweet et dans ses explications, on a bien compris que c'est pas elle qui avait demandé de partir. Et c'est vrai qu'on a eu la confirmation, c'était aux alentours de midi, de la nomination de Gabriel Attal qui jusqu'ici était ministre de l'Éducation nationale comme Premier ministre. Bon, tout le monde en parlait hier, maintenant c'est confirmé. Et puisque vous évoquez les programmes de RCF, demain matin, en direct avec nous, Fernand Tavares, qui a été pendant longtemps journaliste parlementaire et qui connaît tous les dédales de cette Assemblée nationale, en particulier Assemblée nationale et Sénat, sur la chaîne parlementaire. Il sera avec nous pour décrypter un peu cette actualité très mouvante. On attend bien sûr, sans doute demain, la constitution du gouvernement. Et vous savez que nous attendons peut-être dans ce gouvernement des têtes un peu connues de notre région. En tout cas, nous serons vigilants, nous ne faisons pas de pronostics. Et puis, c'était pas tout à fait ce qui nous anime sur RCF, parce que ce qui est important pour RCF Reims-Ardennes, c'est de voir ce qu'on en fait. Quelles que soient les personnes qui engagent bien sûr une action politique, c'est aux résultats et sur les questions des Français que nous apporterons une réponse. Et d'ailleurs,
vous savez, Jean-Pierre, pour ces postes, beaucoup espèrent y accéder, peu sont appelés, forcément.
Absolument, surtout que on ne sait pas, mais il y a une question qu'on a évoquée, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de ministres dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc, si c'est un gouvernement resserré, le nombre de places va être relativement limité parce que il y a beaucoup de gens qui vont certainement, quand même, globalement, rester dans ce gouvernement. Ce qui est important, et on le reverra sans doute demain avec Fernand Tavares, c'est que Et le gouvernement actuel, sans doute le président de la République, a compris ce qui vient d'important, c'était les Français, et c'est sans doute le signe qu'il a voulu donner en demandant à Gabriel Attal de se rendre dans le Pas-de-Calais pour voir ce qui se passait avec les inondations, car c'est bien sûr le sujet actuel qui préoccupe beaucoup bon nombre de foyers français.
Toute cette analyse, on la retrouve demain en fil rouge tout au long de la journée avec Fernand Tavares qui sera votre invité à 7h, à 8h. On parlera également lancement des soldes d'hiver avec Aubin Janteur, président des magasins Janteur et vice-président de la CCI Marne-Ardenne. Et puis Fernand Tavares, on le retrouvera également dans le magazine régional, tout comme Aubin Janteur d'ailleurs, pour de nouveau évoquer les soldes d'hiver. Dans quelques instants, le programme de ce soir, juste si vous êtes sur la route, parce que c'est une émission régionale, donc peut-être que vous êtes sur la route dans les Ardennes, dans la Marne, dans l'Aube, dans la Haute-Marne, faites bien attention parce qu'il y a une fine pellicule de neige qui commence à se déposer sur la route. On a reçu des photos de certains de nos auditeurs et de journalistes et membres de l'équipe RCF en région qui nous disent attention, méfiance, prudence. Donc si vous êtes sur la route, faites bien attention et prenez la voiture seulement si c'est nécessaire.
Ce soir, bien sûr, attention, et puis sans doute aussi, je le dis aussi pour Fabrice, bien entendu, car j'anticipe un peu, pour demain matin, même entre Cormontreuil et
Reims. Mais Fabrice dort ici ce soir, Jean-Pierre, ne vous inquiétez pas.
Oui, c'est ce qu'on pourrait proposer, parce que c'est pas toujours évident, aux aurores, lorsqu'il n'y a pas de sel forcément sur la route, qu'on peut traverser même quelques kilomètres. Enfin, on verra bien, on croise les doigts. Alors c'est vrai qu'il est 18h16, nous sommes en direct, c'est le magazine régional. Alors tout de suite Alexis, vous êtes avec nous et surtout avec notre chroniqueur du mardi.
Un nouveau numéro de Mémoire chrétienne pour commencer 2024 avec Jean-François Boulanger à qui on commence nous par présenter nos meilleurs vœux et vous souhaiter une très belle année, une très bonne santé Jean-François.
Merci, je présente également mes meilleurs vœux donc non seulement au personnel, aux journalistes et techniciens de RCF, mais à l'ensemble de nos auditeurs, bien entendu.
Eh bien, on les reçoit et on les partage avec eux vos bons vœux. Jean-François, pour commencer cette année, vous voulez évoquer le 15e centenaire du baptême de Clovis. Aujourd'hui, nous commençons donc une série d'émissions qui... Le souvenir est sans doute dans la mémoire de beaucoup de nos auditeurs, et avec cet événement, et notamment la venue de Jean-Paul II à Reims.
Absolument, hein. C'est un événement qui date de 1996, c'est-à-dire que 27 ans, bientôt 28, nous en séparent, et il a marqué les esprits et les cœurs. Et si nous en parlons dans cette émission, Mémoire chrétienne, ce n'est pas simplement parce qu'il est dans notre mémoire individuelle, mais parce qu'il s'inscrit dans une mémoire collective, qui est celle d'un événement fondateur, le baptême de Clovis, mais aussi parce que cet événement fondateur avait déjà suscité non pas 14, mais simplement un centenaire déjà mémorable, le 14e, justement en 1896.
Alors pourquoi, Jean-François, pourquoi un seul centenaire a-t-il vraiment été commémoré et pourquoi le 14e plutôt qu'un autre ?
Alors on a déjà évoqué ce 14e centenaire dans l'émission, hein, mais rappelons rapidement pour nos auditeurs qui auraient manqué cette émission, ce qui l'a caractérisé, ce 14e centenaire. Sa nouveauté par rapport aux précédents, c'est que la commémoration des précédents n'avait pas vraiment besoin d'avoir lieu parce que cet événement était associé dans la mémoire monarchique à la suite des sacres qui s'étaient déroulés à Reims depuis donc le baptême de Clovis. Et donc les sacres des rois de France à Reims étaient en fait la véritable commémoration, si l'on peut dire, du baptême de Clovis. Par contre, en 1896, la situation est différente. La France est devenue une république dont la laïcité est une valeur centrale. Les années 1880 avaient été marquées par une série de lois laïques dont les plus connues sont les lois Ferry, mais ce ne sont pas les seules. Et l'Église catholique, à l'époque, s'était montrée hostile à ces lois. Et dans ces conditions, célébrer le baptême de Clovis avait une signification bien particulière. Alors depuis, la situation a changé, la situation politique, l'Église également a changé, et du même coup, la célébration du baptême de Clovis pouvait prendre, aux yeux de beaucoup de catholiques, une toute autre signification.
De quand date cette évolution ?
Alors, il est difficile de donner une date précise. C'est une lente évolution des esprits, mais il y a deux événements qui ont contribué à faire changer les esprits. C'est d'abord la Grande Guerre, et ce qui l'a accompagné, c'est-à-dire l'Union sacrée, qui a provoqué la fin de l'hostilité séculaire entre la République et l'Église. Certes, Léon XIII avait posé un jalon fondamental à l'évolution avec l'invitation des chrétiens à se rallier à la République, mais l'affaire Dreyfus avait tout remis en cause. C'est donc en 14 que tout est véritablement de nouveau à l'heure de la concorde. Ajoutons à cela que la condamnation de l'action française par le Vatican en 1926 avait achevé cette évolution. Et dans le même temps, et c'est le deuxième événement, l'Église s'était lancée dans une autre forme d'évangélisation qui ne passait pas par la conversion du sommet politique d'un État, mais par celle de chaque individu dans son milieu propre, une conversion où les chrétiens de ce milieu jouaient un rôle important. L'apostolat du semblable par le semblable, c'était l'action catholique. Et tout cela influe sur la manière de commémorer le baptême de Clovis et aussi de commémorer celui qui l'a administré, c'est-à-dire Saint-Rémy.
Et il y a un exemple sur lequel on va faire un focus tout particulier, Jean-François Boulanger, si vous le voulez bien. C'est un discours tenu par l'Église à ce sujet.
Oui, c'est ça. Donc, à l'époque, on célèbre la Saint-Rémy pas simplement donc le premier dimanche d'octobre, mais aussi en janvier, c'est ce qu'on appelle la Saint-Rémy d'hiver. Et en janvier 1933, un orateur prestigieux vient à Reims pour parler de Saint-Rémy, c'est Monseigneur Grant, évêque du Mans et membre de l'Académie française. Et voici quelques extraits de son panégyrique. Je le cite. « Écoutez, mes frères, Saint-Rémy nous dire que si autrefois, loin de craindre et de fuir, l'Église combattit les barbares par la prière, le zèle et la charité, aujourd'hui, nous devons recourir aux mêmes armes devant une société qui se paganise. Sans doute, se dresse toujours contre le catholicisme des forces avouées et occultes qui gouvernent l'opinion et obstinées à saper l'idée religieuse s'efforce d'accaparer l'éducation des enfants. Vous voyez, la question de la laïcité n'est pas encore totalement digérée, si je puis dire. Je continue, sans doute, à la multiplicité de leurs moyens s'ajoute pour complice le désir effréné de la richesse, l'amour désordonné du plaisir et l'exaspération des jalousies sociales. Mais ne faut-il pas aussi, mes frères, incriminer l'insouciance de certains catholiques qui se laissent intoxiquer par l'égoïsme et le matérialisme ambiant et qui autorisent à croire la religion stérile par leur manque de courage, de vertu et de charité. Oh, de grâce, devant le tombeau de Saint-Rémy, destinons-nous à restaurer Jésus-Christ dans nos âmes, à redevenir guide, non pour dominer mais pour éclairer et secourir. De grâce, collaborons à cette action catholique que Pie XI prêche comme une autre croisade, Dieu le veut. Reims ne nous montre-t-il pas qu'énergie et persévérance réparent les ruines et raniment ce qui semblait mort? Ces reliques, même tant de fois exilées et revenues, vous enseignent que des défaillances passagères ne signifient pas une chute définitive.
Le texte dont vous venez de nous lire un extrait, Jean-François Boulanger, date de 1933 et il est marqué par son époque. Par exemple, l'allusion aux reliques, tant de fois exilées revenues, fait référence au fait que les reliques de Saint-Rémy ont été déplacées à Dijon pendant les bombardements de la ville de Reims par les Allemands. La situation est-elle la même au moment où on commence à préparer ce 15e centenaire?
Alors, on n'aura pas les mêmes références historiques immédiates, mais elle n'a pas fondamentalement changé. Voici d'ailleurs ce que dit le bulletin du diocésain de 1987, au moment où justement on commence à se préoccuper du centenaire. Je cite, « L'essentiel de la semaine de Saint-Rémy, ce ne sont pas de belles cérémonies qu'on ne peut exporter. Ce qu'il s'agit d'exporter, c'est le renouveau de nos convictions sur l'Église et la vie chrétienne. Il s'agit d'accueillir un messager de notre baptême sur notre vie de baptisé. Le 4 octobre 1987, tous à l'écoute de Saint-Rémy, qui a eu à l'audace, qui a eu de croire à la grâce donnée aux barbares, à l'esprit qui agit au-delà des frontières et rassemble au-delà des divisions. »
Le baptême de Clovis semble donc relever désormais de l'accueil que chacun doit faire d'un message sur notre vie de baptisé. Pourquoi dès lors le célèbre-t-on avec tant d'éclat?
Eh bien, la réponse est donnée par Mgr Balland dans un courrier confidentiel daté de 1990. Première raison, une association extérieure au diocèse existe déjà et agit depuis plusieurs années. Deuxièmement, à l'assemblée plénière de l'épiscopat de 1989, il m'a été demandé de prendre des initiatives tant en raison de l'importance de l'événement que des exploitations ou récupérations à éviter. Troisièmement, je cite toujours Mgr Balland, la célébration juste de cet événement est difficile et beaucoup d'esprits y sont peu préparés. Il convient de trouver la bonne perspective et de la promouvoir.
Jean-François Boulanger, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes historien, nos techniciens ici aussi vous connaissent, vous êtes plutôt bavard. Tout cela mérite un commentaire,
oui.
Jean-François.
Oui, alors le commentaire, on ne va pas le faire maintenant parce que ça nécessitera plus que quelques instants. Mais que signifie ce texte? Eh bien, vous le saurez en écoutant la prochaine émission de Mémoire chrétienne.
Voilà un beau teasing. On donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour en savoir plus. À très bientôt, Jean-François.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et avec le retard que l'on a pris, le maire de ce soir devra être moins bavard. C'est Patrice Morel, l'édile de Courlandon dans la Marne, qui est au micro de Jean-Pierre.
Bonjour Patrice Morel.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez, Patrice Morel, nous présenter un peu votre commune, c'est-à-dire Courlandon, dans la région de Reims? Combien d'habitants à Courlandon, monsieur le maire?
Alors à Courlandon, il y a à peu près 290 habitants, à peu près, ça fluctue toujours un petit peu. La commune de Courlandon, elle est située à 4 km de Fismes, juste avant Fismes.
Donc, pas très loin de Fismes, ça veut dire aussi que pour des gens qui habitent Courlandon, ils vont souvent faire leurs courses à Fismes, c'est tout près.
Oui, oui, Fismes n'est pas très loin, donc il y a les supermarchés à Fismes, ou à Jean-Charles.
Alors justement, monsieur le maire, Patrice Morel, vous êtes maire depuis combien de temps à Courlandon? Comment vous avez commencé comme conseiller municipal, comme adjoint? Comment ça s'est passé pour vous?
En fait, j'ai commencé comme... conseiller en 2000, quand je suis arrivé dans la commune. L'ancien maire, M. Mauvaisin, est venu me chercher. Après, j'ai été deuxième adjoint aux avant-dernières élections. Et maintenant, je suis maire depuis la dernière élection, en 2020.
Justement, il y a beaucoup qui disent que parmi les mandats électifs, le mandat de maire, c'est celui qui rapproche le plus. Vous êtes en contact, vous, avec les habitants, on vous demande des choses. Quels sont d'ailleurs ces habitants de Courlandon? C'est des agriculteurs, il y a peut-être des viticulteurs, il y a des retraités, il y a quelques jeunes qui s'installent. Comment ça se passe?
Alors, il y a un seul agriculteur dans la commune. Il n'y a pas d'entreprise dans la commune, donc c'est surtout des jeunes qui viennent s'installer. Puis bon, pareil, des retraités, des anciens habitants de Courlandon.
On pose souvent la question, monsieur le maire, à toutes les communes. On a le sentiment qu'avec le Covid, par exemple, il y a des personnes, des jeunes en particulier, qui disent « on veut s'installer un peu à la campagne, c'est un peu moins cher quand même. Et puis, bon, on est à l'air, on peut respirer, on n'est pas enfermé. » Est-ce que vous avez ressenti cette demande, monsieur le maire ?
Pas trop, mais on a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de s'installer justement à Courlandon. Mais Courlandon est un territoire très très petit, donc il y a très très peu de terrain à bâtir, à vendre. Il faut juste compter sur les ventes et les reventes, quoi.
Alors, on peut évoquer les communautés de communes aujourd'hui et puis le Grand Reims. Quand même, le maire reste un peu le patron quand même dans sa commune. Même s'il y a le Grand Reims, même si ça passe quand même par le maire.
Oui, bien sûr, le maire, il dirige toujours sa commune, mais bon, il a beaucoup de fonctions qui ont été reprises par le Grand Reims.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ou deux projets qui sont en cours ou qui se profilent pour les années qui viennent et qui sont actuellement sur la sellette à Courlandon?
Oui, on a une départementale qui traverse le village. Et donc, on doit refaire les trottoirs de cette route. Et puis après, on va continuer à aménager un peu tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la salle des fêtes, un petit parc pour les enfants qu'on a commencé à aménager. Et puis surtout, fleurissement aussi.
Alors c'est vrai aussi que les personnes aujourd'hui, elles sont, je ne dis pas exigeantes, mais elles veulent quand même une qualité de vie. Par exemple, l'aménagement des trottoirs ne se fait pas toujours avec du goudron. On fait attention, il y a des normes. Ça devient quand même compliqué. Être maire, ça demande aussi beaucoup de travail. On n'imagine pas toutes les paperasseries qu'il faut faire.
Oui, ça c'est vrai que la paperasserie, elle est énorme. On ne va pas à la vitesse qu'on veut. On est tenu par tous ces problèmes administratifs. Et ça, c'est un peu dommage.
Vous avez aussi une vie professionnelle, ou peut-être êtes-vous retraité, je ne sais pas, monsieur Morel, mais il y a beaucoup de maires aussi qui trouvent qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup plus qu'on ne le pense, quand on est maire d'une commune.
Disons que moi, je suis actif, je travaille dans une entreprise. Hein, et c'est vrai que la fonction de maire est très prenante, donc il faut arriver à jongler entre le travail, la mairie, puis la vie
Mais on peut vous déranger, je dis pas à n'importe quel moment, mais c'est vrai que il y a des personnes qui vous interpellent. De toute façon, vous connaissez tout le monde à Courlandon.
Je connais à peu près tout le monde, oui. Je suis pas natif de Courlandon, donc j'ai des fois des gens que je connais pas vraiment bien. Après, c'est vrai qu'aussi, on m'appelle des fois des heures un peu bizarres.
Eh bien, merci Patrice Morel d'avoir répondu aux questions de Jean-Pierre Benoît dans ce numéro de Votre Mère nous parle, qui a retrouvé en intégralité dans la rubrique programme en passant sur le site www.rcf.fr. 18h30, passé de 28 secondes, c'est le journal régional. Les titres de ce mardi 9 janvier 2024, le grand froid s'abat sur la Champagne-Ardenne. Ce mardi devrait être le jour le plus froid de la semaine. Décryptage avec Pascal Humbert-Claude de Météo France. Une aide exceptionnelle de 43 millions d'euros par l'Agence régionale de santé Grand Est est prévue pour les EHPAD et services à domicile en faveur des personnes âgées. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ça n'a échappé à personne depuis ce week-end et puis plus particulièrement depuis hier lundi. Le temps s'est grandement rafraîchi. Une tendance qui s'est confirmée aujourd'hui, mardi, qui devrait être le jour le plus froid de la semaine, avec des températures comprises entre moins 3 et moins 7 degrés, relevées parfois un froid revenu de Russie, aussi passé par les îles britanniques, comme nous l'explique Pascal Humbert-Claude, prévisionniste à Météo France Strasbourg.
Alors actuellement, on a un puissant anticyclone qui est centré sur le nord des îles britanniques et qui oriente un flux continental froid et sec de nord-est sur la France et donc en particulier sur les départements de Champagne-Ardenne. Donc on a un temps qui est sec, mais beaucoup plus froid puisqu'on a aussi une bise sensible qui accentue cette sensation. Donc c'est l'effet du vent de nord-est. Donc c'est une manière de traduire ce que l'on ressent avec des températures froides et en même temps le vent qui souffle.
Un épisode de froid qui devrait durer jusqu'à jeudi matin. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est jusqu'à cette deadline que Météo France prévoit le plan vigilance jaune.
Ensuite, ça reste des prévisions, donc on n'est pas 100% sûr que cet épisode s'arrêtera jeudi. Mais ensuite, on a quand même des températures qui ont tendance à remonter, avec en particulier des maximales qui redeviendraient positives.
Alors même que l'on parle de grand froid, lexicalement parlant, on ne peut pas parler de vague de froid. Explication avec Pascal Humbert-Claude.
Alors, on parle de vague de froid sur un épisode de froid intense. Et lors d'une vague de froid, on n'a pas de dégel. Or là, on n'est pas vraiment sur le cas d'un froid intense, on est plutôt sur un épisode persistant de froid. Donc c'est une période de froid qui va durer et qui peut constituer un danger pour des populations qui sont à l'extérieur, fragiles et justement exposées au vent.
Et finalement, des températures froides dehors en plein hiver, quoi de plus logique, sachant qu'on reste loin, même très loin, des records de froid en région. À Mouzon, dans les Ardennes, l'avenir de la friche sommaire fait causer. Lors de ses vœux, le maire Alain Renard a évoqué plusieurs pistes, mais avant d'envisager une réhabilitation du site, il doit d'abord être dépollué. Même si les idées sont là et que le dossier est pris en charge, il s'annonce long. Écoute, l'Agence régionale de santé Grand Est mobilise 42,8 millions d'euros au bénéfice de l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services de soins infirmiers à domicile et services polyvalents d'aide et de soins à domicile du Grand Est. Agnès Gerbeau, directrice de l'autonomie à l'ARS Grand Est, nous explique les raisons de cette aide financière.
Des difficultés spécifiques, notamment en matière de ressources humaines ou à des difficultés financières dans le contexte inflationniste qu'on connaît. Et donc, ces aides financières, elles sont vraiment orientées vers ce soutien financier pour des dépenses spécifiques auxquelles ces services sont confrontés. Tous les services de soins infirmiers à domicile, tous les SPASAD, c'est-à-dire les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, sont concernés dans le Grand Est et donc en Champagne-Ardenne notamment. On a des rencontres très régulière avec les représentants de ces établissements et services, donc notamment les fédérations médico-sociales qui les représentent, et puis nos délégations territoriales de l'agence sont en contact régulier avec chaque établissement et chaque service du territoire. Et donc, on savait et on sait dans le contexte économique actuel Et dans le contexte de ressources humaines difficiles dans le secteur de la santé, on sait depuis longtemps qu'il y a des difficultés spécifiques de ce secteur. Et par ailleurs, ces établissements ou services, lorsqu'ils se retrouvent en grande difficulté ou qu'ils prévoient de pouvoir basculer en difficulté, bien reviennent vers nous. Donc c'est dans ce dialogue permanent et au niveau des représentants du secteur et au niveau de chaque établissement ou service qu'on a pu identifier ce besoin.
Des propos recueillis en ligne par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne, annoncé le 9 décembre dernier par la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. L'enveloppe des 42,8 millions d'euros sera versée aux structures du Grand Est dans les semaines qui viennent. Et puisque l'on parle d'Aurore Berger, vous le savez, actuellement, le gouvernement français, il est en train de se reconstruire avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, qui devrait faire des propositions à Emmanuel Macron, le président de la République, qui décidera de nommer les ministres qui lui sont proposés pour écouter cette actualité, échanger autour de cette actualité. Fernand Tavares, journaliste parlementaire, sera l'invité de Jean-Pierre Benoît demain matin sur RCF France-Ardennes dès 7h et à 8h. Il sera également présent avec nous dans le magazine régional demain soir sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. Sport qualifié dimanche après-midi pour les 16e de finale de la Coupe de France de football après sa victoire 3-0 sur la pelouse de Dinan-Léon. Le Stade de Reims a découvert son adversaire pour ce nouveau tour hier soir. Les stadistes, seuls représentants des équipes du territoire de l'ex-Champagne-Ardenne, héritent de Sochaux, club de national. Ils se déplaceront dans le Doubs entre le vendredi 19 et le dimanche 21 janvier. Jour et horaire à confirmer. Et puis, vous le savez, c'est du direct. Si vous êtes sur la route, faites bien attention parce que au-delà du temps froid, une fine pellicule de neige est en train de se déposer localement à différents endroits dans l'Aube, dans le sud de la Marne également, en Haute-Marne aussi, et puis dans le nord des Ardennes pour le moment, donc ça pourra arriver près de chez vous. Ne prenez la voiture que si nécessaire et surtout, prudence. 18h37, le magazine régional continue. C'est ainsi que se referme ce journal en revanche.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Au diocèse de Chalon, la paroisse de Cézanne et le foyer Sainte-Léonie à Via fêtent leur sainte patronne demain, mercredi 10 janvier. L'occasion pour nous de faire le point sur le chantier qui anime les lieux depuis un peu plus de 3 ans et d'évoquer cet anniversaire avec notre correspondant RCF Cœur de Champagne, Christian Lanciot, qui est sur place.
Nous sommes aujourd'hui donc au foyer Sainte-Léonie à Via. J'ai autour de moi le directeur, Christian Delamorlet, qui est donc qui dirige l'EHPAD depuis combien de temps ?
Depuis 10 ans maintenant. Bonjour Christian et bonjour à tous.
Et puis j'ai également près de moi Sœur Jeanne Claire, qui est la responsable de la communauté depuis maintenant 2 ans, et qui, cette communauté, comporte, je crois, 7 sœurs.
Voilà, 7 sœurs, dont 3 en EHPAD.
Christian, la dernière fois que nous sommes venus vous voir, vous étiez en plein travaux, je crois que même qu'il y avait encore une grue. Comment ont évolué ces travaux et où en êtes-vous aujourd'hui ?
Eh bien, je suis heureux de dire que ces travaux sont globalement terminés. Nous avons eu la commission de sécurité mi-décembre et qui nous rendra son avis fin janvier là. Donc on peut dire que le gros du chantier est terminé. Nous avons eu la joie d'ouvrir, donc il y a maintenant 1 an, le nouveau bâtiment. Et à l'occasion de cette ouverture, on a transféré tous les résidents de l'ancienne partie qui a été rénovée vers la nouvelle. Et à cette occasion, on a ouvert 7 lits. En terminant cette phase de rénovation, on a pu ouvrir 8 nouveaux lits, ce qui fait que nous avons un agrandissement de l'ensemble de l'établissement aujourd'hui de 15 lits. Et on accueille aujourd'hui 64 personnes. 64 personnes dans des locaux qui sont, bon, bien sûr, complètement nouveaux et ou rénovés, mais aussi qui ont été repensés. Et aujourd'hui, avec 64 résidents, on a voulu tenir dans le cahier des charges initial. Il y avait cette réflexion de dire, voilà, on a besoin de grandir parce qu'il faut trouver une viabilité économique, un modèle économique fiable et durable dans le temps. Mais en même temps, on veut pas être une usine, on veut continuer d'être un lieu familial et accueillant. Et donc, dans l'architecture, on a pensé des lieux de restauration, par exemple, à chaque étage, pour que les résidents puissent se retrouver le matin dans une ambiance plus familiale et en plus petit groupe. Et puis on a cette grande salle à manger au rez-de-chaussée où tous les résidents, quand ils sont bien apprêtés, peuvent venir partager un moment, et un moment plus social, plus festif et joyeux le midi.
Alors, dans les nouveautés,
on a des locaux affectés à chaque fonction. Avant, on avait un fonctionnement en très bon père de famille, on va dire, où la salle, par exemple, la salle de restauration était aussi la salle d'animation. Mais aujourd'hui, on a une belle salle de restauration qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Donc, on va retrouver là, évidemment, les résidents, mais aussi les jeunes, entre guillemets, quelques professionnels de Cézanne qui viennent partager le repas avec nous, les familles qui viennent manger avec les résidents, l'accueil de jour qui vient partager le repas avec l'EHPAD. Et puis, on a une autre salle à côté qui est la salle d'animation, qui peut être aménagée en salle d'animation et qui est communicante, si l'on veut, avec la salle de restauration parce qu'il y a une cloison amovible. On a dans cette architecture aussi un nouveau lieu qui sera, je pense, un vraiment très chouette à l'utilisation, qui est un auvent. Donc au bout du bâtiment, sous les quatre dernières chambres du bâtiment, on a peut-être 100 mètres carrés de auvent qui permettront aux résidents de rester dehors l'été quand il fait chaud et qu'on a envie de voir le coucher de soleil se poser sur Cézanne. Voilà un des beaux lieux. Autre lieu qui est vraiment sympa aussi, c'est la terrasse du premier. En face du petit salon du premier, on a une terrasse ouverte où les résidents peuvent aller librement et voilà, qui est un beau lieu.
C'est Jeanne-Claire qui est la responsable de la lieu communauté. Mais vraiment, c'est bien le hasard, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est 80 ans après la mort de Léonie Avia.
Mais oui, tout à fait, ça fait déjà 80 ans qu'elle est auprès du Seigneur.
Et alors, comment on va la fêter cette année alors?
Comme tous les ans, il va y avoir la messe, donc dimanche 14, à l'église Saint-Denis à Cézanne. Donc, vous êtes tous cordialement invités à cette messe, oui. Et qui sera
à 10h30.
À 10h30, qui sera également une messe des familles.
Donc, effectivement, c'est l'église de Saint-Denis, mais c'est la patronne, c'est Léonie Avia. Alors, merci beaucoup, Christian. Merci, Sœur Jeanne-Claire. Et puis, on vous remercie de nous avoir accueillis.
Et un grand merci à Christian Lanciot également depuis Cézanne. L'actualité du foyer Sainte-Léonie Avia est à retrouver sur le site foyeravia.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, à 18h42, on va faire un tour dans les territoires avec notre invité qui est en ligne, par téléphone évidemment. S'il s'agit de Pierre Cordier, député de la deuxième circonscription des Ardennes, entretien avec Jean-Pierre.
Pierre Cordier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
C'est l'occasion de vous présenter tous nos vœux. Quels sont vos vœux pour 2024, Pierre Cordier?
Bah écoutez, tout d'abord des vœux de santé, parce que c'est vrai que quand on voit autour de soi des personnes qui sont concernées par eux-mêmes ou par leurs proches d'un problème grave de santé, bah écoutez, on dit que quand la santé va, tout va, hein, c'est pas le bâtiment va, tout va, c'est la santé, mais je crois que c'est des vœux de santé en tout premier lieu, bien sûr.
Alors c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes d'inondation, ça s'arrange un petit peu dans les Ardennes, la situation se stabilise?
Oui, la situation se stabilise, effectivement. Bon, il y a quand même sur la vallée de l'Assemois un certain nombre de communes qui ont connu des difficultés, notamment sur le secteur des Hautes-Rivières, de Nohant, etc. Sur la vallée de la Meuse elle-même, Givet, Revin, il y a aussi quelques points très délicats. Mais bon, voilà, globalement, ça va.
Alors sur le plan de la politique, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la France? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Français en 2024? En quelques mots, Pierre Cordier.
Bah écoutez, tout d'abord une meilleure année que 2023, parce que c'est vrai que 2023 a quand même été très compliqué. La réforme des retraites, la loi immigration, l'inflation, le record de la dette de la France, hein, puisque 3 000 milliards d'euros, on vient de les dépasser, c'est-à-dire 45 000 euros de dette par Français, quand même, il faut le savoir. Et le Covid n'explique pas tout. C'est vrai qu'il y a eu de gros efforts de l'État qui ont été réalisés à l'occasion de la crise Covid, mais le gouvernement et les gouvernements successifs depuis 2017 ont dépensé beaucoup plus d'argent qu'il n'avait dans les caisses. Donc c'est toujours facile aussi de dire il n'y a qu'un faucon, il faudrait que. Je ne suis pas dans cette perspective-là. Il n'en demeure pas moins que comme un foyer, comme une association, comme une commune, eh bien on n'a pas le droit de dépenser plus d'argent qu'on a dans les caisses. Donc bien entendu l'État emprunte. Hein, la dernière fois que le budget a été équilibré dans ce pays, c'était en 1974 ou 75, je ne sais plus. Mais en tous les cas, ça commence à remonter à quelques années. Et c'est vrai que depuis, le train de vie de l'État explose. Et que l'État lui-même, avec le nombre de fonctionnaires créés et autres, ne montre pas l'exemple. Et c'est vrai qu'on a battu des records aussi avec le gouvernement d'Elisabeth Borne en nombre de ministres, de secrétaires d'État, de recrutement dans les cabinets ministériels, aux fonctionnaires, etc. Donc tout ça, ça coûte quand même aussi beaucoup d'argent. Et je crois que les Français sont aujourd'hui prêts à serrer la ceinture s'ils voient des dirigeants, des hommes politiques, des gens aux responsabilités qui se serrent eux-mêmes la ceinture. Et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas.
Alors pour regarder regarder un peu cette année 2024 un peu plus en détail, on peut aussi y voir les questions. Vous êtes toujours sur le terrain, Pierre Cordier, souvent dans les Ardennes, toujours. Quelles sont les questions que les administrés, les électeurs vous posent dans la vallée de la Meuse, du côté de Charleville également?
Ben écoutez, sur la vallée de la Meuse, la question qui se pose, c'est la question de la santé, bien entendu, parce que les gens sont très inquiets quand ils doivent aller chez leur médecin ou chez un spécialiste avec le nombre de médecins qui déclinent sur le territoire ardennais. Beaucoup d'efforts ont été faits aussi par les communes, les intercommunalités, avec les créations de maisons médicalisées, etc., médicales, mais ça ne suffit pas. Et on voit bien aujourd'hui que beaucoup de médecins veulent s'installer au sud d'une ligne, Nantes-Chambéry, parce que il y fait meilleur vivre que dans le nord de la France, et que dans des secteurs comme les nôtres, le département des Ardennes, 270 000 habitants, on a des difficultés à avoir des médecins. Donc aujourd'hui, quand on voit les avantages qui sont aussi octroyés, il y a aujourd'hui des intercommunalités qui promettent des grosses sommes d'argent à des médecins pour venir s'installer chez eux, avec des conditions de logement favorisées, des recherches d'emploi pour les épouses, etc. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'autour de cette question de la santé, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais je le dis aussi aux médecins, aux futurs étudiants en médecine, que même si le numerus clausus a été un petit peu assoupli et que ça devrait permettre d'avoir davantage de médecins dans notre pays dans les prochaines années, il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi se poser de la question de là où ils doivent s'installer. Est-ce qu'il doit y avoir des mesures un peu... je choisis mes mots parce que je ne veux pas froisser nos amis médecins, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas y avoir une concentration de médecins énorme au sud de la France pendant que le reste de la population au nord n'est pas soignée. C'est juste pas possible. Donc à un moment, il faut avoir un petit peu de courage politique et puis dire pourquoi pas des médecins, vous irez vous installer là et là pendant 3 ou 4 années avant de vous installer ailleurs, mais donner davantage de temps et des soins aux personnes qui en ont besoin, qui sont dans des secteurs moins favorisés économiquement et socialement.
Pour terminer, Pierre Cordier, la période des vœux, c'est l'occasion aussi de rencontres, parce que il y a des vœux un peu partout, et le député que vous êtes va aller à ces rencontres, participe.
Oui, je voyais d'ailleurs mon agenda ces jours-ci pour arbitrer sur les cérémonies de vœux. C'est pas toujours simple parce que parfois les cérémonies de vœux ont lieu en même temps. C'est vrai que c'est un moment privilégié pour rencontrer les citoyens et parfois on prend un petit peu des claques, comme on dit. Les gens viennent nous faire part de leur mécontentement. Moi, j'ai mes deux permanences, donc ils viennent quand ils veulent, ils le savent quand je suis présent pour venir me dire ce qu'ils ont à me dire. Mais c'est vrai que c'est un moment un petit peu privilégié. On a des messages à faire passer et croyez bien, Jean-Pierre Benoît, qu'à l'occasion de ces vœux, je vais faire passer un certain nombre de messages. Moi, vous me connaissez, je suis un gaulliste social, je suis fidèle à mes convictions, je reste sur ma ligne politique, je ne suis pas à bouffer dans tous les râteliers, si vous me passez cette expression familière très connue dans le département des Ardennes. Voilà. Je crois que quand on fait de la politique, il faut être fidèle à ses convictions, et que quand on est fidèle à ses convictions, les gens vous le rendent. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, quelles que soient les sensibilités des citoyens, mais croyez que je vais faire passer un certain nombre de messages à l'occasion de ces cérémonies.
Pour terminer, Pierre Cordier, qu'est-ce que vous souhaiter à la France pour les quelques semaines et les mois qui viennent et l'année qui s'annonce?
Écoutez, ce que je souhaite à la France, c'est de la sérénité. C'est effectivement que chacune et chacun, en fonction de ses qualités, de l'engagement qui est le sien au niveau de la société, puisse aussi vivre décemment de son travail, Jean-Pierre Benoît. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de gens qui se lèvent le matin, qui bossent et qui pour autant n'arrivent pas à s'en sortir. Donc à un moment ou à un autre, ce qu'on appelle les revenus moyens, alors gauche et droite confondus, ont promis beaucoup aux revenus moyens, Jean-Pierre Benoît, depuis 40 ans dans ce pays, mais on voit finalement très peu de résultats. Et moi, je crois qu'il doit y avoir aussi un écart significatif entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas, parce que à défaut, bien entendu, ceux qui ne bossent pas ne sont pas forcément incités à aller bosser, puisque de toute façon ils peuvent avoir, avec un certain nombre d'aides accumulées, presque autant que celui qui a le SMIC aujourd'hui. Donc à un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions, faire les bons choix et dire quand on se lève le matin, qu'on donne de soi, on doit pouvoir vivre dignement, et mon combat, il est là, il est en direction des revenus moyens. Jean-Pierre Benoît, et je crois que si sur l'année 2024 on pouvait un petit peu progresser et aider les gens qui bossent et qui se donnent du mal pour vivre, eh bien écoutez, je pense que ce serait aussi une bonne nouvelle, sachant que le système social, bien entendu, doit être là aussi pour aider des personnes en difficulté, hein. Il ne s'agit pas du tout de rayer de la carte le système social tel qu'on le connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais je crois qu'il faut faire attention entre le social et l'assistanat, et que l'assistanat finalement encourage des gens, pas forcément à bosser et à se lever le matin pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
Merci en tout cas Pierre Cordier d'avoir été avec nous, député des Ardennes. Évidemment, on vous souhaite bien sûr, avec toute l'équipe de RCF ici, une très très bonne année 2024. À bientôt.
Merci, à bientôt Jean-Pierre Benoît.
Et c'est vrai qu'on le dit, on le répète à chacun de nos invités, mais peut-être que certains de nos auditeurs aussi avaient prolongé leurs vacances, si vous avez eu de la chance d'en avoir. Et au nom de toute l'équipe de RCF, les équipes techniques, les équipes rédactionnelles en région, nos bénévoles également, on présente à tous nos auditeurs nos meilleurs vœux pour cette année. On vous souhaite vraiment une belle et heureuse année, une sainte année également, et puis la santé qui va avec, parce que c'est très important. 18h50 dans le magazine régional.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On va aller faire un tour dans nos boulangeries dans quelques instants, mais c'est du direct et c'est l'actualité météo qui inquiète un petit peu finalement avec cette fine pellicule de neige qui continue de se déposer, et la fine pellicule est en train de monter. On va bientôt avoir quelques centimètres d'ici demain matin si ça continue de tomber comme ça. On a des images qui nous arrivent d'un petit peu partout en région, on le disait tout à l'heure, dans le sud de la Marne, dans le nord de l'Aube notamment, on sait que dans le nord des Ardennes, dans la Haute-Marne également, on est touché par cette neige. Et bien là, il y a Fabrice qui est venu nous montrer il y a quelques instants des images du côté d'Épernay où là aussi la neige commence à tomber. Donc attention, si vous prenez la route, soyez bien prudent et prenez la voiture ou votre véhicule que si nécessaire. Arrivé à la 3e place nationale de la meilleure galette des rois 2022, Frédéric Béliard, artisan boulanger à Fanières près de Châlons-en-Champagne, aime bien participer au concours de la profession. Depuis 32 ans qu'il est boulanger, il participe au concours de la meilleure galette des rois depuis de nombreuses années et aux autres concours de la profession. On vous laisse Gérald Gaillet présenter davantage votre invité.
Bonjour, notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Béliard. Il est artisan boulanger à Fanières. Et si c'est notre invité aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est boulanger, c'est simplement parce que il a de l'or dans les doigts, parce qu'il a quand même terminé à la 3e place du concours national de la Galette des Rois 2022. Frédéric, bonjour.
Bonjour Gérald.
Donc Frédéric, voilà, donc nous on se connaît depuis très très longtemps et ça fait 32 ans que tu es dans le métier. Comment on fait les concours, quoi? Parce que finalement on se dit, ah bah tiens, il est premier, deuxième, troisième, mais un concours national, c'est quand même important.
Mais en fait, il y a plusieurs étapes. Ça commence par le concours départemental. Celui qui gagne le concours départemental participe au concours du Grand Est et les deux premiers participent l'année d'après au concours national.
Donc finalement, premier de la Marne, premier ou deuxième de la région, et ensuite on va en national où tu finis troisième. Mais tout ça, ça prend du temps.
Ah oui, ça prend du temps, c'est beaucoup de préparation.
C'est-à-dire que, en fait, en termes de préparation, c'est-à-dire, c'est quoi, préparer le produit ou mentalement, il faut se préparer à aller à une vitesse particulière?
Au concours national, c'est pas tellement la vitesse, et on a largement le temps, mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans son fournil, on n'a pas son matériel, on n'a pas ses matières premières, donc il faut s'adapter.
Et donc la galette au niveau départemental, on va rester département. Donc du coup, on est chez soi, on a son matériel, et c'est plus facile.
Oui, c'est exactement ça. On fabrique la galette chez nous et on l'apporte sur le lieu du concours. Donc c'est bien plus confortable. On l'apporte sur le lieu du concours et puis le jury délibère entre toutes les galettes présentes.
Et le jury, il est composé de qui ?
Des professionnels, souvent des meilleurs ouvriers de France, des journalistes, des consommateurs. C'est varié.
Des gens qui apprécient la galette des rois ?
Oui, il vaut mieux. Quand il y en a 30, 35 à goûter, il vaut mieux l'apprécier.
Alors justement, comment on peut comparer que celle de, allez, j'en veux dire, la numéro 10 ou la numéro 25, comment on la départage?
On a une grille de notation, en fait, pour le goût, le décor, la répartition entre la pâte et la frangipane. Il y a plein de critères. Et pour avoir participé deux fois au jury, c'est très très compliqué. Très très compliqué de départager.
Oui, parce qu'une fois qu'on a été premier, l'année suivante, on est dans le jury.
C'est ça, c'est ça. On a l'interdiction de concourir l'année d'après. On est dans le jury.
Et alors, quand on est soi-même artisan boulanger et qu'on doit juger la galette des autres, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué puisque quand on goûte, on a 15 galettes à goûter. La première, on met une note. La deuxième, on met une note. Et quand on arrive à la 15e, est-ce que la 15e était meilleure que la première ? C'est franchement très très compliqué.
Parce qu'il y a plusieurs qualités de pâte de frangipane. Expliquez-nous, nous qui sommes pas un peu dans le métier.
C'est ce qui fait la richesse du métier. On a tous une recette différente, une façon de travailler différente. En même temps, elles se ressemblent toutes et en même temps, elles sont toutes différentes. C'est vraiment compliqué.
Alors, pour rester à celle de Frédéric Béliard, qu'est-ce que tu mets dans ta galette, si on a le droit de le dire, qui permet de dire qu'elle est bonne?
Ça, je vais rester assez évasif là-dessus, hein, on garder nos petits secrets. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Une frangipane, ça reste une crème d'amande mélangée avec une crème pâtissière. Là-bas, c'est du beurre, du sucre, des œufs et de l'amande en poudre. Il n'y a rien d'exceptionnel.
Après, c'est le doigté du boulanger et de ses ouvriers, parce que ici à Fagnières, tu ne travailles pas tout seul.
Non, je ne suis pas tout seul. Je travaille avec mon fils et puis on a deux ouvriers.
Voilà, donc on se pose toujours des questions, mais en fait, la galette, on peut la garder combien de temps quand on l'achète chez le boulanger?
Une galette, ça se conserve bien au moins 2 jours. Après le troisième, il faut quand même la repasser au four.
Et on peut la repasser continuellement au four, non? Il y a quelque chose qui permet de dire qu'on passe une fois au four, une fois que c'est passé.
Oui, c'est comme tous les produits de boulangerie, hein, ça rassit. Donc c'est toujours consommable le deuxième jour, mais c'est meilleur quand c'est frais.
Alors, comment un boulanger il estime ce qu'il va vendre pour ne pas être en rupture et pas en avoir de trop non plus?
C'est ce qui fait la complexité de notre métier. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas manquer et pas avoir trop de pertes.
Est-ce que Frédéric, après avoir participé au concours national, tu as toujours envie de participer à des concours?
Ah bah oui, on se prend au jeu. On essaye toujours de gagner le titre pour essayer de le remettre en jeu l'année d'après et puis de gagner plusieurs fois, forcément.
Là, on est début 2024. Alors, quel sera le prochain concours de Frédéric?
Ce sera le concours du croissant au mois de mars.
Il y a aussi le concours du meilleur croissant?
Oui, tous les ans, il y a le concours du meilleur croissant, la meilleure baguette de tradition et du meilleur pâté croûte.
Ah oui, donc il n'y a pas que la galette des rois. Donc ça veut dire que tu prends sur ton temps de travail pour te laisser le temps de bien faire ton produit?
Oui, on essaye toujours de s'entraîner, de s'améliorer. C'est un peu le but aussi des concours, hein, de tirer tout le monde vers le haut.
Et quand on a été, comme toi, numéro 3 national, est-ce que ça t'a apporté, entre guillemets, une notoriété locale ou un peu plus?
Certainement un peu plus, oui, forcément.
Tu l'as vu dans ta clientèle, des clients nouveaux?
Je suis un petit peu mal placé, il faudra demander ça à mon épouse.
Qui est la vendeuse?
Oui, qui est au magasin. Mais oui, on a de nouveaux clients, effectivement.
Ouais. Oui, mais toi, tu le vois au niveau de la quantité à produire?
Oui, tout à fait. Oui, les années où on gagne les concours, ça décuple les ventes.
Voilà, donc l'idée, c'est de gagner régulièrement pour avoir plus de clients.
Oui, ça fait partie du jeu, effectivement.
Ouais. Ça fait combien d'années que, donc on disait tout à l'heure, 32 ans que tu es dans le métier, mais ça fait pas 32 ans que tu es à Fagnières?
Non, je suis installé à Fagnières depuis 12 ans.
Et c'est vrai que là où tu es installé, il faut savoir que tu es là.
Oui, on est assez caché. On n'est pas sur un axe passager au milieu du quartier des collines.
Voilà, donc, mais c'est un endroit où finalement tu tournes.
Ah oui, on a réussi à faire notre clientèle, ça tourne, il n'y a pas de souci.
Frédéric Béliard, eh bien, on va vous souhaiter de préparer comme il faut le concours du meilleur croissant 2024 pour le département de la Marne. Et puis ensuite, vous préparerez les autres concours, la baguette de pain, le pâté croûte, et puis on reviendra à la galette des rois. Voilà, et eh bien merci Frédéric.
De rien Gérald, merci à toi.
L'artisan boulanger Frédéric Béliard était donc au micro de Gérald Gaillet de la rédaction de RCF. Cœur de champagne, vous l'avez compris, Frédéric Béliard se prépare désormais pour le meilleur croissant 2024. Il participera à la meilleure baguette de tradition et enfin au meilleur pâté croûte. Ça en fait des concours et des médailles et des coupes, pourquoi pas, à rapporter au sein de la boulangerie. Dans quelques instants, c'est l'information nationale de RCF qui prend le relais. Nous, on se retrouve demain matin, en particulier sur RCF Champagne-Ardenne en DAB+, et RCF Reims-Ardenne avec Fernand Tavares, journaliste parlementaire, pour décrypter l'actualité politique au niveau national et peut-être aussi au niveau local, avec, comme on le disait en préambule de cette émission avec Jean-Pierre Benoît, peut-être des personnalités locales qui pourraient viser des postes de ministres. Affaire à suivre, on se retrouve demain 18h10 pour le magazine régional. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Prudence si vous prenez la route, la neige est bien en train de tomber.